si vous nous rejoignez pour la première fois, nous sommes dans la deuxième semaine de notre série de l'Avent. Donc c'est la période avant Noël qui nous prépare à fêter Noël et qui nous prépare à d'autres choses aussi, comme on va voir. J'ai un cauchemar récurrent, il y a certains d'entre vous le savent déjà. Dans mon rêve, je fais la queue à la poste et c'est tout. C'est comme ça toute la nuit. Je n'ai rien à écouter, je n'ai rien à lire. Normalement, j'ai un livre dans mon sac, j'ai quelque chose à écouter. Dans mon rêve, je n'ai rien de tout cela. Je dois rester là à attendre, à faire la queue. Et c'est mon rêve. Et c'est horrible. Le matin, je me réveille stressé, énervé. Je ne supporte pas de voir d'autres personnes parce que j'ai passé ma nuit à être entouré de gens qui ne me parlaient pas et je devais attendre. C'est affreux. Pour les gens comme moi qui n'aiment pas attendre, la saison de l'Avent, c'est peut-être une des saisons les plus importantes de l'année. Comme on a vu la semaine dernière, moi j'ai pas grandi avec l'Avent, et donc comme beaucoup de gens, je pensais que l'Avent c'était juste la période avant Noël qui nous préparait à fêter la naissance du Christ. Et évidemment c'est ça, mais c'est bien plus que cela. L'Avent est une saison particulière dans l'année de l'Église, où l'Église se ralentit de manière intentionnelle et apprend ce que c'est que d'attendre. Si on connaît la Bible, on voit que l'histoire de la Bible, c'est une histoire d'attente et d'accomplissement. À plusieurs reprises, le peuple de Dieu dans la Bible se trouve dans des situations où ils attendaient quelque chose qu'ils n'avaient pas encore, notamment dans la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un peu cette période-là qu'on pense quand on pense à l'Avent. Dieu avait promis d'envoyer un Messie qui allait sauver le peuple de Dieu, et pendant cette période de silence, ils attendaient tout simplement sa venue. Et maintenant, nous aussi, nous attendons. Depuis plus de 2000 ans maintenant, nous attendons le retour de Jésus-Christ, où il va revenir et renouveler la terre et nous ramener chez nous dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc l'histoire qu'on voit dans la Bible, cette histoire d'attente et d'accomplissement à cycle répété, c'est l'histoire qu'on est en train de vivre maintenant. Et donc on a de bonnes raisons pour apprendre à bien la vivre. Pendant le mois de décembre, du coup, on va regarder une série d'actions, une série de verbes que Dieu nous donne pour nous aider à faire cela. La semaine dernière, le verbe c'était tout simplement attendre pour introduire notre saison de l'Avent. Celui de cette semaine, c'est croire. Et donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez au livre d'Ésaïe, chapitre 40, on va lire les 11 premiers versets. Souvenons-nous, avant de le lire, de ce qu'on a vu jusqu'ici. La semaine dernière, on était dans le psaume 44, qui est une lamentation très sérieuse du peuple concernant une situation désespérée qu'ils étaient en train de vivre. C'était douloureux, c'était triste, et à la fin du psaume, le psalmiste prie que Dieu agisse, et puis c'est fini. On ne voit jamais comment Dieu répond à cette prière-là. Et donc c'est pour cela qu'on est dans Ésaïe 40 aujourd'hui. Dans ce chapitre, on voit Dieu répondre. Pas à la situation exacte du psaume 44, mais à ce même type de désespoir, à ce même type de lamentation. La situation dans laquelle il répond est similaire à ce qu'on a vu la semaine dernière. Quand Ésaïe écrit ce chapitre, il vient tout juste, si on a lu le verset 39 juste avant, on le sait, il vient tout juste d'avertir le peuple qu'à cause de l'infidélité du roi Ézéchias, qui n'était que la dernière d'une série d'infidélités du peuple, le peuple sera exilé en Babylone. On voit cela dans Ésaïe 39, versets 5 à 7. Donc Jérusalem sera presque totalement détruit. Le peuple d'Israël sera déporté pour vivre en prisonnier dans un pays étranger. Et donc au chapitre 40, même s'il a été écrit avant l'exil en Babylone, il était destiné à être un encouragement pour le peuple pendant l'exil, pendant cet exil-là. Alors du coup, mettons-nous juste un instant dans leur peau. Ils sont loin de leur pays, l'exil a dévasté le peuple. Ils sont loin de chez eux, ils sont loin de leur pays, ils ont perdu leur culture, ils ont perdu leur religion, leur identité même. On voit dans le livre de Daniel que assez souvent ils recevaient de nouveaux noms quand ils arrivaient en Babylone. Ils étaient loin du temple à Jérusalem qui était saccagé et détruit. Si jamais il y avait une situation qui pourrait provoquer le genre de désespoir et le genre de lamentation qu'on a vu la semaine dernière, c'est bien celle-ci. Donc la question que tout le monde se pose aurait été, genre, jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Quand est-ce qu'il va revenir nous sauver? Est-ce qu'il va revenir nous sauver? Est-ce qu'on sera laissé là pendant l'éternité? Et dans la parole que Dieu donne par son prophète Ésaïe, Dieu répond à ce désespoir dans l'exil. Par le prophète, le peuple reçoit la force dont ils ont besoin pour croire qu'ils n'attendront pas pour toujours, mais que Dieu arrive. Et c'est par cela qu'il commence, au verset 1. Donc on va le lire petit à petit. Disons ensemble, verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. » Alors, arrêtons là juste un instant. Et essayons de ressentir le ton de ce qu'il dit. Quand on devient parent, on apprend... Moi, je suis pas nécessairement quelqu'un de naturellement empathique. Je suis sympa, mais bon, l'empathie, c'est quelque chose pour lequel je dois travailler. Disons-nous comme ça. Quand on devient parent, on apprend l'empathie d'une manière assez particulière. Il y a des blessures que nos enfants souffrent, c'est la vie. La plupart du temps, quand ils sont petits, leur souffrance est presque toujours physique. Ils se font piquer chez le médecin et ils pleurent. Ils tombent par terre, ils pleurent. Ils se tapent le doigt, ils pleurent. Voilà. Ils ont les dents qui sortent, ils pleurent. C'est jamais marrant, mais au moins on sait ce que c'est. On n'est pas stressé par cela, on n'est pas peur de cela. On arrive à mesurer l'échelle de la douleur. Et donc on sait qu'ils vont bien quand même. Mais quand ils grandissent un peu, on commence à les voir blessés par des choses qu'on ne mesure pas aussi facilement. Ils se font harceler à l'école. Ou ils sont blessés par des paroles dures que nous, on a dit sans réfléchir. C'est difficile de voir votre enfant souffrir d'une douleur physique, mais les voir pleurer parce que leur cœur est blessé, c'est quasiment insupportable. C'est horrible. Tout ce qu'on a envie de faire dans ces moments-là, c'est de les prendre dans nos bras et dire « ça va aller, je t'aime mon grand, ça va aller ». Je te promets, je suis là, tu n'es pas tout seul à supporter ça, je suis désolé, mais ça ne va pas durer. Je t'aime et je suis là. Il faut qu'on voit que depuis le début de ce passage, le premier verset, c'est ça que Dieu ressent pour son peuple. C'est ça qu'il ressent pour la douleur de son peuple. Il voit leur douleur, il voit leur désespoir, et même si c'est leur propre péché qui les ont placés dans cette situation-là, il a de la compassion pour eux, et il veut les réconforter. Et donc il n'envoie pas simplement Ésaïe le faire pour lui, il ordonne à de multiples voix figuratives d'annoncer sa consolation au peuple. Le Saint-Esprit inspire Ésaïe à écrire ce mot pour que le peuple sache que Dieu vous console. Comme il dit, il parle à votre cœur. Il vous rassure, tout ira bien. C'est ça le ton du passage. C'est un cadeau merveilleux qu'il lui donne. Et le réconfort qu'il envoie à son peuple n'est pas sans contenu. Ce n'est pas juste un « oh, c'est pas grave, ça va aller ». Il s'enracine dans la réalité que leur douleur va bientôt prendre fin. Verset 2 encore. Il dit « Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Alors le peuple se trouve dans cette situation horrible, exilé en Babylone, loin de chez eux, du temple de leur Dieu. Mais Dieu dit à Ésaïe d'annoncer leur consolation. Pourquoi? Parce que sa discipline divine est terminée. Il les a pardonnés. Leur faute est expiée. Remarquez bien qu'il parle au passé. Il dit « Le combat est terminé. Votre faute est expiée. » On dirait que ce ne soit pas le cas parce qu'ils sont bien, ils sont encore là. Ils sont encore en Babylone. Ils sont encore sous le joug de cet ennemi étranger. Ils sont encore dans le combat. Ils sont encore en train de se faire punir pour leur infidélité, on dirait. Alors, ça peut être difficile pour nous de comprendre cela si on vit en Occident en 21e siècle, mais les gens qui ont lu cette parole au début auraient bien compris ce qu'il voulait dire. C'est une pratique commune dans les écrits de l'Ancien Testament et même parfois dans le Nouveau, de parler au temps passé de quelque chose qui se passerait au futur. Et il parlait ainsi pour montrer à quel point leur assurance que ces choses se passeraient était solide. la fin de leur combat, la fin de leur punition était absolument certaine. Tellement certaine que Dieu peut en parler comme si c'était déjà fait. C'est déjà accompli, c'est déjà fini. C'est assuré. Le peuple se trouvait dans un désert qu'eux-mêmes avaient fabriqué, un désert dans lequel leur identité nationale et leur santé et leur provision étaient absentes. Mais c'est dans ce désert-là que Dieu envoie cette voix pour dire au peuple que, leur secours est tellement assuré qu'on peut dire que c'est déjà fait. Et après, il change un peu d'image pour dire en fait, le secours est assuré, votre combat est terminé, votre secours arrive. Dieu est en route et il vous délivrera. Verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans des endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors évidemment, c'est une image. D'un côté, on a Dieu qui vient au secours de son peuple. De l'autre côté, on a le peuple qui attend l'arrivée de Dieu. Et entre les deux, on a le chemin le plus difficile qu'on peut imaginer. Plein de trous et de bosses et de déviations. Et l'image qu'il donne ici, c'est l'image de Dieu qui dit à la route de se rendre facile. De s'aplatir, de devenir tout lisse. C'est la différence entre faire du VTT dans la forêt et conduire sur une route qui vient tout juste d'être pavée. Ce qu'il dit, c'est Dieu vient et il vient vite. Il n'y a aucun obstacle qui va l'arrêter ou le retarder. Et puis il dit ce qui va se passer une fois que Dieu arrivera. Verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. C'est ça qu'ils attendent. Ils n'attendent que ça depuis le début de leur exil. Ce terme gloire, quand il dit la gloire de l'Éternel sera révélée, ce terme gloire peut être un peu difficile à définir. Quand la Bible parle de la gloire de Dieu, elle parle de tout ce que Dieu est. Tous ses attributs divins, donc sa puissance, son éternité, sa sagesse, sa connaissance, son amour, sa colère, tout ce qu'il est, tous ses attributs rendus visibles. Quand on voit les attributs de Dieu, on voit sa gloire. Et le peuple exilé en Babylone se souvenait des histoires de Dieu qui manifestent sa gloire dans le passé, de comment il a rendu ses attributs visibles par ses œuvres accomplies. On l'a vu dimanche dernier, les histoires de la fidélité de Dieu étaient racontées de génération en génération pour le peuple de Dieu. Ils se souvenaient de comment Dieu avait manifesté sa gloire par ses œuvres puissantes dans le passé, par sa protection et sa délivrance et sa provision. Et donc quand ils entendent Ésaïe dire que la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme le verra, ils attendent la seule chose dont ils ont besoin. La seule chose qu'ils veulent entendre depuis tout ce temps qu'ils sont dans l'exil. Parce que voir la gloire de Dieu signifie voir ses attributs mis en œuvre pour accomplir ses promesses. C'est le secours qu'ils attendent, pour lequel ils prient depuis si longtemps. Vous allez voir sa gloire. Tout ce qui est brisé dans votre exil va être restauré. Vous reviendrez chez vous et je serai votre Dieu. Et comment est-ce qu'ils peuvent être sûrs que cela arrivera? On le voit à la fin du verset 5. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Et c'est à ça qu'Ésaïe se tourne ensuite. Dieu veut rappeler au peuple de la fidélité durable de sa parole. Verset 6. Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous savez bien que quand on souffle, le temps semble toujours se prolonger. Vous avez déjà fait dévitaliser une dent? C'est horrible. je dis ça juste comme ça, ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça dure pas très longtemps, 3 quarts d'heure grand maxi, mais je peux vous assurer que ces 3 quarts d'heure, on dirait que c'est une éternité. C'est horrible. Ou alors, imaginons qu'on attend un coup de fil super important. Genre, on a postulé pour un travail, on attend de savoir si on va l'avoir. Il y a un autre chéri qui a dit qu'elle allait nous appeler à un certain moment. Elle n'a pas appelé quand elle a dit qu'elle allait faire, et on attend que entendre sa voix. Quand on attend quelque chose, surtout quand on attend quelque chose qui est difficile, le temps, on dirait que ça prend toujours. Dans ces moments de souffrance et d'attente, il est facile d'oublier que peu importe combien vous avez l'impression d'attendre longtemps, vraiment, la plupart du temps, c'est pas si longtemps que ça. 3 quarts d'heure pour une visite chez le dentiste, c'est pas très long. 2-3 heures d'attente pour un coup de fil important, ce n'est pas très long. Sur une échelle d'éternité, ce n'est pas long du tout. Les êtres humains, Esaïe dit, sont comme l'herbe. Toute la beauté de l'humanité, même si elle peut durer des millénaires, ne dure qu'un instant par rapport à l'éternité. Les êtres humains, par définition, sont des êtres finis. On est temporaire, on est de peu de conséquences. Et le peuple en exil aurait bien ressenti ça. Ils auraient ressenti ça de manière aiguë. En exil ou en route, la durée de vie devenait souvent très, très courte. Et en comparaison à la brièveté de notre vie, Esaïe nous montre la parole de notre Dieu. Alors quand il dit ça, il ne parle pas de la Bible en tant que telle. La Bible n'existait pas en tant que telle à l'époque. Mais plutôt, il parle du plan de Dieu, de ses décrets, de sa volonté. Et il dit, vous êtes temporaire, mais la parole de Dieu ne l'est pas. La parole de Dieu subsiste éternellement. Elle est permanente alors que vous êtes temporaire. Elle est consistante alors que vous êtes futile. Des millénaires après que vous soyez partis, quand vous serez desséchés et dispersés comme l'herbe de l'été dernier, ses paroles et ses promesses s'appliqueront toujours. Ne bougeront pas. Elles seront toujours là. Encore une fois, quel réconfort pour ces Israélites qui étaient exilés loin de chez eux. Quand on a tout perdu, ce n'est pas seulement à nous-mêmes qu'on pense, mais à nos enfants, et à leurs enfants, et à leurs enfants après eux. Qu'est-ce que cette situation dans laquelle on est aujourd'hui va faire pour nos enfants dans 20 ans, dans 50 ans, dans 70 ans? Qu'est-ce que ça va faire pour nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants? Eh bien, ce que Dieu a promis à son peuple, il continuera d'accomplir pour son peuple. Même si nous, on est partis, même si on ne voit pas cet accomplissement-là, la parole de Dieu subsiste toujours. C'est une source magnifique d'assurance pour le peuple. Mais seulement si on sait précisément quelles sont les promesses, quelle est cette parole qui subsiste pour toujours, quel est le contenu de la parole qui dure pour toujours. Eh bien, dans le contexte de ce chapitre, la promesse, c'est la promesse que le berger arrive. Je pense que ce qui se passe dans le verset 9 est absolument fascinant. Au verset 1, Dieu vient à Esaïe et il envoie au peuple exilé en Babylone. Il lui dit de déclarer que leur Dieu vient les sauver. Et puis au verset 9, Esaïe, il fait de même. Il parle à ce peuple exilé et il leur dit d'aller déclarer la même chose à leur peuple. Verset 9, lisons ensemble. « Monte sur une haute montagne, Sion. » Donc Sion, c'est un surnom pour Jérusalem. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. » Alors le peuple qui attend leur délivrance reçoive un message. Et ce message est tellement rempli de force et d'assurance que eux-mêmes, ils peuvent aller le déclarer aux autres. Et quelle est l'assurance qu'ils peuvent déclarer? Verset 10. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Donc la première assurance qu'ils ont, c'est la puissance souveraine de Dieu. Le Dieu en qui vous espérez, le roi qui vient, il n'est pas impuissant comme vous. Il n'est pas faible comme vous, il ne lui manque rien. Il est le tout-puissant Dieu de l'univers et il vient pour vous, peuple de Juda. Pourquoi? Parce que vous êtes son peuple. Vous êtes le peuple par qui son royaume vient. La deuxième moitié du verset 10 peut nous confondre parfois. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Quand on parle du roi qui vient avec puissance, presque tout de suite on pense à la colère de Dieu contre le péché et assez souvent dans la Bible c'est ça. Et on sait que le salaire du péché c'est la mort. Et donc du coup quand on entend le mot salaire et récompense avec Dieu, on pense parfois au jugement de Dieu contre le péché. Et à d'autres moments dans la Bible c'est bien ça. Mais dans le contexte de ce passage, ce n'est pas de ça qu'il parle. Le salaire et la récompense de Dieu dans ce verset n'est pas le salaire qu'il va donner, c'est le salaire qu'il reçoit. C'est son salaire, c'est sa récompense de la victoire qu'il va gagner contre ses ennemis. Et quel est son salaire? Quelle est la récompense de Dieu pour sa victoire? C'est son peuple. C'est son peuple. Sauvé et racheté par son œuvre puissante. La récompense, le salaire que Dieu reçoit pour sa victoire contre ses ennemis, c'est le peuple qui délivre, c'est le peuple eux-mêmes. On l'a vu la semaine dernière dans le psaume 44, Dieu prend plaisir en son peuple, il aime son peuple. Son peuple délivré de l'esclavage par sa puissance et par sa force, ce peuple-là est son trésor. Alors Dieu arrive avec toute la force de sa souveraineté derrière lui, déterminé à agir parce que son peuple est en esclavage et il va les délivrer. Il ne va pas laisser cette situation durer plus longtemps. Comment est-ce qu'ils peuvent encore être effrayés après avoir reçu une telle assurance de la bouche de Dieu? Il viendra et il viendra avec force. Et quand il viendra, il dit, verset 11, pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Et voilà leur deuxième assurance. Ce Dieu libérateur et fort, ce Dieu puissant qui arrive avec force envers vous, le peuple, il agit avec tendresse. Tout comme on a vu au verset 1, il agit en consolant son peuple. Cette image du berger ne nous parle pas nécessairement aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de brebis à Paris. On ne voit pas énormément de bergers qui prennent soin de leurs brebis dans la ville. Mais c'est une image fréquente dans la Bible. Les agneaux ne peuvent pas faire grand-chose pour eux-mêmes. Ils sont petits, ils ne sont pas particulièrement puissants. Si vous avez vu un agneau, vous savez que probablement vous pourrez le battre dans une bagarre. Un agneau n'est pas nécessairement très fort. Ils ont besoin de la supervision constante de leur berger. Et une des marques du berger qu'on voit dans la Bible, c'est sa tendresse. Puisque les agneaux sont petits, puisqu'ils sont faibles, le berger vient comme une force de protection et d'assurance pour ce petit animal. Il porte ces faibles créatures dans ses bras quand ils ne peuvent pas aller plus loin et il les guide avec son bâton quand ils sont perdus. Le message ici, c'est que le réconfort que Dieu dit à Ésaïe de proclamer à son peuple, Dieu arrive et il va donner ce réconfort à son peuple. Ce n'est pas Ésaïe qui va prendre soin du peuple, c'est Dieu lui-même qui arrive en tant que berger et qui va prendre soin de ses brebis. Il est important de voir la complexité de l'image que ce passage nous donne de Dieu et comment sa complexité est rassurante. Dieu vient à son peuple comme un tendre berger, mais aussi comme un roi conquérant qui vient les secourir de leurs ennemis de manière miraculeuse. C'est un tendre berger et un roi conquérant, mais aussi un roi qui pourvoit aux besoins de son peuple, qui leur donne la chose qu'ils attendent depuis tout ce temps, une vision de sa gloire, l'accomplissement de ses promesses. Et donc il faut se souvenir qu'à ce moment dans l'histoire, quand le peuple reçoive ces paroles, toutes ces choses ne sont pas encore arrivées. Le berger n'est pas encore venu. Leur situation n'a pas changé. Le peuple est toujours en exil en Babylone. Quand ils lisent ces paroles, ils sont toujours dans la même situation dans laquelle ils se trouvaient avant. Mais savoir que Dieu vient, savoir qu'il arrive, leur donne la force qu'il leur faut pour attendre. Pour attendre avec patience et pour attendre calmement, dans un certain sens. Notre fille Zadie, la plupart d'entre vous la connaissez, elle a 18 mois. Elle ne dort pas très bien. Elle dort très mal, en fait, la plupart des nuits. Depuis deux nuits, elle dort bien. Mais en règle générale, presque chaque nuit, soit elle fait un cauchemar, soit elle se réveille dans sa chambre, elle s'assoit, elle regarde autour, elle voit qu'on n'est pas là, et elle a peur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ce que les bébés font, elle hurle. Elle crie. Elle crie, elle hurle pour attirer notre attention. Et donc, parce que moi, j'ai le sommeil léger, et Loane fait des insomnies si elle se réveille complètement. La plupart du temps, c'est moi qui me lève la nuit pour m'occuper de Zadie. Donc elle pleure, je me lève, et le moment où j'entre, pas dans sa chambre, mais dans le salon, elle arrête de pleurer. La plupart du temps. Parce que le parquet dans notre salon grince horriblement. Et elle pleure. J'entre dans le salon et ça commence à grincer. Et quand elle entend le grincement du parquet, elle sait que j'arrive. Et elle arrête de pleurer. Alors, je suis pas là encore. Je suis pas encore dans sa chambre. Je l'ai pas encore dans mes bras. Mais elle sait que je suis juste à l'extérieur. Elle sait que j'arrive. Ma main, je suis presque à la porte. Et le simple fait de savoir que j'arrive, que je serai là dans quelques instants, suffit pour la calmer. Et si jamais je m'arrête avant sa porte pour voir si elle va continuer de pleurer, si j'arrête et elle voit que je n'entre pas, elle commence à pleurer de nouveau. Ce que Dieu fait ici, c'est cela. Il dit à son peuple, par le prophète Ésaïe, « J'arrive, n'ayez pas peur. » J'arrive, je suis en route, je viens et je viens vite, n'ayez pas peur. Et donc le peuple peut être consolé et fortifié pendant qu'ils attendent. Les paroles d'Ésaïe dans ce passage auraient été d'un réconfort immense pour le peuple en exil en Babylone. Est-ce que Dieu les a abandonnés en exil? Est-ce qu'ils attendraient pour toujours? La réponse claire de ce texte, c'est non. L'attente sera bientôt terminée. La parole de Dieu subsistera éternellement. Le berger viendra. Et il est venu. On voit dans la Bible, le Seigneur a souverainement œuvré pour que le peuple soit libéré de l'exil, comme on voit dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Ils sont retournés à Jérusalem, ils ont rebâti la ville, les murs de la ville, ils ont rebâti le temple. Dieu a accompli ses promesses. Mais ce passage aurait été aussi lu par des gens qui sont venus après. Après le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, les prophètes ont arrêté de parler de la part de Dieu. Dans vos Bibles, si vous regardez entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule page la plupart du temps. Mais pour le peuple, 400 ans sont écoulés pendant cette période-là, entre les deux testaments. Cette période a vu le règne d'Alexandre et l'ascendance de l'hellénisme, donc l'intégration de la langue et de la culture grecque à travers tout l'Empire. Cette période a vu la révolte des Maccabées, elle a vu le début de l'Empire romain, et encore une fois, il semblait que Dieu les avait abandonnés. Les prophètes étaient totalement silencieux. Dieu avait promis d'envoyer un Messie, un Sauveur pour délivrer son peuple, mais maintenant ils attendaient depuis des siècles. Ils attendaient même juste genre une petite nouvelle de la part de Dieu. S'il te plaît Dieu, dis-nous où on en est. Mais rien. Et donc, ils se posaient les mêmes questions. Dieu avait-il vraiment plus rien à dire à son peuple? Est-ce qu'il les a abandonnés à leur péché après les avoir ramenés de l'exil? Et Et pour ceux qui lisaient ce passage d'Ésaïe à cette époque, encore une fois, la réponse était non. L'attente sera bientôt terminée. La parole de Dieu subsistera éternellement. Le berger vient. Et il est venu. Au début de l'évangile de Jean, on voit Jean-Baptiste prêcher dans le désert, se servant de ces paroles qu'on voit dans Ésaïe 40. Quand les prêtres et les lévites sont venus l'interroger, ils lui demandent qui il était et Jean répond, donc Jean chapitre 1 verset 23, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Jean a préparé le peuple pour la venue de Jésus-Christ et quand Christ est venu, il s'est identifié comme le Dieu dont Ésaïe a parlé. Dans Jean 10 à 11, il dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On voit ce cycle d'attente et d'accomplissement partout dans la Bible. Et aujourd'hui, nous, aujourd'hui, à Paris, au 21e siècle, on se trouve dans un cycle similaire, dans le dernier cycle, où nous sommes appelés à croire que Dieu sera fidèle comme il a été fidèle pour son peuple dans le passé. Christ a vécu, il est mort, il est ressuscité, grâce à son œuvre accomplie, le réconfort que Dieu donne à Israël dans ce passage nous a déjà été donné, nos fautes sont expiées en Christ. Christ a reçu de la main de Dieu toute la punition de nos péchés. Après la résurrection, il est monté à la droite du Père et il a promis qu'un jour, il reviendrait. Le Seigneur va venir avec puissance et la récompense de sa souffrance sera son peuple, racheté par son sang. Tous les hommes, pas seulement les Israélites, mais toute l'humanité verra la gloire de Dieu. C'est ce jour-là que nous désirons. C'est ce jour-là que nous attendons. Et il est super important de préciser que c'est ce jour-là que nous attendons. Quand on parle de cette attente pendant l'Avent, on parle de l'attente du retour de Christ, pas une attente généralisée. Il est très important de le préciser parce que si on n'est pas spécifique concernant ce qu'on attend, on peut, sans faire exprès, adopter une mentalité qui dit qu'on n'a pas quelque chose que Dieu dit qu'on a. On peut passer tout notre temps à attendre des choses qu'on a déjà. À dire pourquoi, où es-tu Seigneur, où es-tu Seigneur, alors que Dieu est juste devant nous, hey, je suis là. On comprend que son retour est une bonne chose, mais quand on parle du retour de Christ et comment Christ pourrait revenir à n'importe quel instant, ça peut rendre les gens un peu nerveux. Je dis ça à titre d'exemple. Ça peut rendre les gens un peu inquiets. On voit que son retour est une bonne chose, qu'on devrait souhaiter. C'est ça qu'on a parlé dans le groupe de communauté et on comprend intellectuellement, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses qu'on veut faire dans nos vies chrétiennes avant qu'il vienne, avant qu'il revienne. On ne pense pas qu'on est là où on devrait être dans nos vies avec Christ. On n'a pas encore progressé dans la sainteté comme on aimerait. On ne peut pas encore dire que Christ est vraiment tout pour nous. Et on veut pouvoir dire ces choses avant qu'il vienne, parce qu'on a un peu peur, pour une raison peut-être qu'on ignore, de ce qui se passera si jamais on ne réussit pas à progresser comme il faut avant son retour. On veut qu'il prenne son temps pour nous donner le temps qu'il nous faut pour grandir avant son retour. Alors, écoutez bien, les amis. La seule chose que vous apportez à cette table, c'est la foi que Christ vous a donnée. La seule chose que vous avez à contribuer, c'est la foi que Dieu vous a donnée. Et cette foi, vous l'avez déjà. Vous n'attendez pas. Vous n'avez pas besoin d'attendre la foi en Christ. Si vous l'avez, vous l'avez. En termes de ce qui doit se passer dans votre vie avant le retour de Christ, vous êtes là. C'est bon. Alors vous pouvez vous préoccuper ailleurs. Vous pourriez être le ministère de l'Évangile le plus puissant de l'histoire du christianisme. Cela ne va pas faire que Dieu vous aime plus. Et vous pourriez être le chrétien le plus faible de tous les temps, ça ne va pas faire que Dieu vous aime moins. Vous avez l'approbation de Dieu parce que vous êtes racheté par le sang de son Fils. C'est fait. C'est déjà fait. Il vous aime déjà d'un amour infini. Il prend déjà un plaisir infini en vous. Donc ce n'est pas ça que vous attendez. Ce n'est pas ça qu'on attend. Parce que ça, c'est déjà passé. De manière similaire, on n'est pas en train d'attendre que Dieu change nos circonstances présentes. Quand on parle de cette espérance dans l'attente, dont on parle de l'avant, dans la saison de l'avant, on n'attend pas que Dieu change nos circonstances présentes. Des gens lisent souvent certaines promesses des Écritures et les appliquent tout de suite à leur situation actuelle, alors que ces promesses ont été données à des gens précis, à des moments précis, pour des raisons précises. Il y a zéro promesse de la Bible que Dieu changera les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Zéro. La promesse de la Bible, c'est qu'il nous changera. Il nous changera et il nous donnera ce qu'il nous faut pour persévérer et pour trouver notre joie en lui, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Alors là aussi, ce qui doit changer dans votre vie avant que Christ revienne, c'est déjà passé. Si Dieu vous permet de passer par cette situation aujourd'hui, alors vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut pour le supporter, même si vous n'en avez pas l'impression. Vous avez déjà ce qu'il vous faut avant son retour. Et donc, qu'est-ce qu'on attend? Quand on parle d'apprendre à attendre, qu'est-ce qu'on attend? On attend le retour de Jésus-Christ, le jour où il reviendra et il rendra toutes choses nouvelles. Et attendre ce jour-là va changer la manière dont nous voyons nos circonstances actuelles, dont nous voyons notre progression dans la foi. J'ai pas besoin de le dire à la plupart d'entre vous que cette semaine a été assez dure pour plus d'un dans l'Église. On a tous des moments, et même de longues périodes de souffrance. Et je peux vous dire que pendant une semaine comme celle qu'on vient d'avoir, ce que la Bible décrit quand elle décrit le retour de Christ est inimaginable combien c'est beau. Quand on a mal, rien ne semble meilleur qu'un endroit où il n'y a plus de mal, où il n'y a plus de mort, plus de deuil, plus de douleur, où les larmes de tristesse n'existent que dans nos souvenirs. Quand on souffre, les promesses de ce jour nous semblent comme un rêve trop bon pour être vrai, parce que c'est tout ce qu'on veut. Les promesses qu'on voit dans ce chapitre, c'est tout ce qu'on veut, mais on ne le voit pas encore. Voilà notre exil. Voilà le monde dans lequel nous vivons en attendant son retour. Et ce jour glorieux, quand nous arriverons enfin dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où Dieu essuiera toute larme de nos yeux, eh bien très souvent ce jour nous semble tellement loin. Tellement loin. Mais dans cette attente difficile, dans cette attente parfois horrible, dans notre exil, Dieu dit, non, l'attente sera bientôt terminée. Ma parole subsiste pour toujours. Le berger viendra. N'ayez pas peur. Ne vous désespérez pas. C'est presque fini. Alors j'aimerais juste vous encourager ce matin. Si vous souffrez, sachez que la providence de Dieu n'a pas cessé pour vous et qu'il veut vous consoler dans votre souffrance, quelle qu'elle soit. Il nous a donné cette parole d'Ésaïe, il nous a envoyé son esprit, le consolateur, pour vivre en nous, qui veut nous rappeler que ces choses que nous souffrons ne vont pas durer pour toujours. Il prend ces paroles de consolation du prophète Ésaïe et il applique cette consolation à notre cœur. Un jour, Christ reviendra et réparera tout ce qui est brisé. Et entre-temps, il est là. Il vous donne ce qu'il vous faut pour bien attendre. si vous luttez contre le péché et vous êtes frustré de voir combien votre progrès dans la sainteté est lent, Dieu veut que vous voyez que ses promesses sont bien plus fortes que le péché avec lequel vous luttez. Ésaïe parle de la nature temporaire de l'homme, toute créature comme l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs. La bonne nouvelle là, c'est que... J'ai perdu. La bonne nouvelle là, c'est que notre péché est tout aussi inconsistant, tout aussi temporaire que nous. Notre péché meurt avec nous. Genre, dans les faits, nous ne pourrons plus pécher une fois qu'on est mort. Notre péché est totalement impuissant contre les promesses de Dieu, comme l'herbe, comme la fleur des champs, comme nous-mêmes. Il sèche et il tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vos péchés ne sont pas une menace au plan de Dieu. Peu importe combien vos luttes vous semblent énormes, elles ne vont pas durer. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et donc, vous pouvez lutter. Vous pouvez lutter parce que vous avez la force de toutes ces promesses qui travaillent avec vous pour mettre votre péché à mort. Si vous attendez une réponse à la prière, eh bien, je serai honnête avec vous, je ne sais pas comment Dieu va répondre à cette prière-là. Je ne peux pas vous dire, ne vous inquiétez pas, Dieu va vous donner exactement ce que vous avez demandé. Je ne peux pas dire ça. Mais je sais, en tout cas, ce que je sais, c'est que Dieu sait ce dont vous avez besoin. Et il ne retient rien de nécessaire à ses enfants. C'est le bon berger qui prend ses brebis dans ses bras et qui les protège, qui prend soin de ses brebis. Peu importe combien cet obstacle vous semble grand, combien il vous semble que tout votre bonheur dépend de Dieu qui vous donne ce que vous avez demandé dans la prière, vous avez bien plus besoin de ce qu'il vous a déjà donné et ce qu'il a promis de vous donner. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant tout homme la verra. Le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui. Et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Frères et sœurs, apprenons à attendre avec persévérance. Parce que l'attente sera bientôt terminée. La parole et promesse de notre Dieu subsisteront toujours. Le berger arrive. Il vient. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette assurance incroyable que tu nous donnes. Merci Père pour des promesses qui ne sont pas seulement particulières. Des promesses que tu as accomplies pour certaines personnes à un certain moment et que tu as accomplies de nouveau pour d'autres personnes à d'autres moments. Merci Père pour l'assurance que ces promesses nous donnent, que c'est ainsi, non pas comme tu as agi de manière particulière, de manière exceptionnelle à ce moment-là, c'est ainsi que tu agis de manière générale. De manière générale, pour tout ton peuple, ton désir, c'est de les consoler, de les rassurer, de leur proclamer que tu viens, que tu es là, que tu es pour eux et pas contre eux, que tu entends leurs prières et que tu n'en es pas indifférent. Je prie, Père, que tu nous donnes. Que tu nous donnes de plus désirer le retour de Jésus-Christ qu'une réponse favorable à nos prières. Que tu nous donnes de désirer plus le retour de Jésus-Christ que des réponses qui nous donnent ce qu'on a demandé. Donne-nous, Père, de croire que tu sais parfaitement bien de quoi nous avons besoin, que tu prends soin de nous et que ce par quoi nous vivons n'est pas une punition maintenant que Christ est déjà venu. Il a pris la punition de nos péchés. Il a payé le salaire de notre péché. Et donc, même si parfois notre souffrance est permise pour nous aider à grandir en toi, notre souffrance n'est aucunement punitive. Tu n'es plus en colère contre tes enfants. Tu nous aimes d'un amour infini. Donne-nous, Père, de comprendre cet amour et cette grâce que tu nous donnes à un tel point que ce n'est pas possible d'imaginer maintenant vivre avec le péché qui a mis notre Sauveur à la croix. Donne-nous, Père, une telle vision de ta grâce et de ton amour et de ta gloire que l'idée même de continuer de vivre dans le péché nous dégoûte. Permets-nous, Père, de vivre dans l'assurance et le réconfort que tu donnes dans ce passage. Donne-nous de croire que ce que nous attendons arrivera, que le berger vient, et on peut le savoir, on peut en avoir confiance, parce que ta parole subsiste pour toujours. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.